Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de notre émission Écrire l'Histoire, consacrée aujourd'hui à la figure monumentale de Louise Michel. Alors ces derniers jours, les Parisiens ont découvert des affiches annonçant la commémoration des 150 ans de la Commune, avec un visage, celui de Louise Michel, qui à elle seule incarne depuis plus de 100 ans le souvenir de cette expérience politique singulière de 1871. Alors, nous recevons aujourd'hui la maîtresse de conférence en sciences politiques, Sidonie Verrague, qui vient de publier « Vive Louise Michel, célébrité et postérité d'une figure anarchiste » aux éditions du Croquant. Dans ce livre formidable, vous montrez comment cette icône a connu de multiples réappropriations mémorielles, qu'elle soit communiste, anarchiste, mais aussi féministe et républicaine. Alors peut-être pouvez-vous nous expliquer comment, de son vivant, Louise Michel est devenue cette légende, ce mythe qui, par la suite, va connaître une postérité très particulière.
Oui, alors bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Lucie, et puis merci pour votre invitation. Donc effectivement, avant d'interroger les mémoires et la postérité de Louise Michel, je me suis effectivement posé la question de, pourquoi Louise Michel ? Qu'est-ce qui s'est passé avec Louise Michel pour que cette figure devienne la figure qu'elle est toujours. Donc pour ça, je suis retournée voir dans sa célébrité, c'est-à-dire de son vivant, pour essayer de comprendre comment Louise Michel est devenue une personnalité politique célèbre. Parce que effectivement, sa célébrité, elle est tout à fait significative. Quand on regarde, par exemple, dans la presse écrite, le nombre d'occurrences de Louise Michel, c'est assez exceptionnel pour une personnalité politique, encore plus exceptionnel pour une femme. Alors, dans le livre, je donne quelques éléments de comparaison avec d'autres personnalités de la période. Louise Michel, elle a également fait l'objet de très nombreuses caricatures, là aussi publiées dans les journaux. Donc, de son vivant, on parle beaucoup de Louise Michel, et c'était pas évident parce que déjà en tant que communarde, il y a quand même de très nombreux communards et communardes qui après la Commune et puis donc sont déportés ou s'exilent, puis ensuite reviennent en France et puis qui reprennent une activité normale et puis qui ne se singularisent pas dans la vie politique. Donc en tant que communarde et puis aussi et peut-être surtout en tant que femme et en tant qu'anarchiste et donc qui ne participe pas de fait à la vie politique institutionnelle et donc les personnalités politiques qui ne participent pas à la vie politique institutionnelle sont souvent moins connues. Donc j'ai essayé de voir un petit peu ce qui s'est passé avec Louise Michel de son vivant et donc comment expliquer que Louise Michel soit devenue une personnalité célèbre. Il y a plusieurs choses. De son côté, c'est la persistance de son engagement, parce que finalement, elle commence à être connue après la Commune de Paris, au moment de son procès en décembre 1871. À ce moment-là, elle a déjà 40 ans, puisqu'elle est née en 1830. Après son procès, elle va être déportée en Nouvelle-Calédonie. Elle reviendra donc en France après l'amnistie de tous les communards en 1880, fin 1880. Et puis, donc, ensuite, elle va s'investir politiquement, multiplier les tournées de conférences, écrire des romans, écrire de la poésie, écrire des articles dans les journaux. Donc, c'est la première chose, c'est évidemment la persistance de son engagement, sa présence continue dans les luttes sociales. Elle sera à nouveau emprisonnée, puisque, par exemple, en 1883, elle participe à une manifestation, la manifestation dite des Invalides, suite à laquelle il y a un certain nombre de pillages de boulangeries. Et puis, donc, pour ça, elle va être condamnée à plusieurs années de prison. Et donc, un investissement continu, politique, tout au long de sa vie. Donc, ça, c'est la première chose, évidemment. C'est pourquoi Louise Michel est devenue une personnalité célèbre. Parce que c'est en raison de la permanence de son engagement. Après, c'est aussi parce que finalement, Louise Michel, elle va devenir un symbole à la fois pour les mouvements révolutionnaires, qui vont voir en elle un symbole de la Commune, un symbole aussi de d'une pratique politique alternative au système représentatif, donc un symbole révolutionnaire et aussi un symbole repoussoir pour ses opposants. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est cette dialectique qui a vraiment contribué à la construction de sa célébrité. C'est donc qu'elle va cristalliser les peurs et les angoisses et les conflits politiques de la période.
Oui, c'est ça. Vous montrez qu'elle est aussi l'objet de caricatures très virulentes. On la montre comme monstrueuse, comme hystérique. Enfin, il y a déjà, de son vivant, ça va se poursuivre ensuite, mais de son vivant, elle est la cible de beaucoup d'attaques. Alors ensuite, donc, vous montrez qu'à sa mort, donc en 1905, après des obsèques qui ont été extrêmement suivies, enfin, il y a eu énormément de monde dans Paris pour suivre la dépouille de Louise Michel. Ensuite, il y a un petit temps de latence, et puis c'est à partir de 1920, vous montrez, avec la création aussi du Parti communiste français, que tout d'un coup, une première réappropriation mémorielle a lieu. Alors, pourquoi c'était si important pour le Parti communiste naissant de se s'ancrer, de se référer à cette figure qui, il faut bien le rappeler, se revendiquait de l'anarchisme ?
Effectivement, donc, création du Parti communiste 1921, et donc là, à ce moment-là, nécessité pour ce nouveau parti, finalement, de construire une filiation historique, avec des événements et des figures du passé. Louise Michel va jouer un rôle important, et comment Louise Michel va être importée au sein du Parti communiste, là, dans ce processus-là, il y a quelqu'un qui va jouer un rôle important, c'est Ernest Giraud, qui est un ancien ami de Louise Michel, enfin qui l'a connu de son vivant, notamment tous les deux, ils ont fait une tournée de conférences en Algérie en 1904. Ernest Giraud, il est aussi très investi au moment de l'enterrement de Louise Michel, hein, donc il est l'un des principaux organisateurs de ses obsèques. Et puis donc il rejoint le Parti communiste en 1921, et donc il va finalement promouvoir la mémoire de Louise Michel au sein du Parti communiste. Il va devenir une sorte d'entrepreneur de mémoire. Et donc, il va importer Louise Michel, et puis, en important Louise Michel, importer une lecture et un discours de Louise Michel, et puis il va finalement façonner un petit peu l'appropriation communiste de Louise Michel. Notamment, il va raconter des anecdotes sur Louise Michel, et notamment une anecdote qui est que... au moment de sa mort, quasiment sur son lit de mort, Louise Michel aurait dit à Giraud que finalement elle voyait la révolution se faire en Russie et que c'était finalement en Russie que la grande révolution aurait lieu et commencerait. Donc un rôle important d'Ernest Giraud et donc il importe Louise Michel, il importe aussi un discours, des images de Louise Michel, et puis donc le Parti communiste immédiatement, va ritualiser la mémoire de Louise Michel, ritualiser le souvenir de Louise Michel en mettant en place des commémorations annuelles pour l'anniversaire de sa mort, donc en janvier, fin janvier. Et donc ça, voilà, effectivement, ça c'est nouveau, c'est une prise en charge collective et publique de la mémoire de Louise Michel, ce qu'il n'y avait pas eu dans les 20 premières années pour plusieurs raisons, mais que je ne développe pas ici, mais que je développe dans le livre, la question de la statue de Louise Michel, qui est aujourd'hui à Levallois-Perret. Je retrace un petit peu l'histoire de cette statue. Bon. Donc voilà ce qui se passe avec le Parti communiste, c'est donc mettre en place une commémoration rituelle et ritualisée de Louise Michel au moment de l'anniversaire de sa mort. Et donc, ça va contribuer à transformer un petit peu, enfin, en tout cas, à proposer une lecture de Louise Michel communiste, prolétarienne, qui du coup s'insère un petit peu dans le cadre discursif du Parti communiste. Alors il va aussi y avoir des modifications, des relectures picturales, puisque je montre à un moment donné que du coup la façon dont Louise Michel est représentée, ses portraits vont un petit peu se modifier dans les premières années 1920, de la décennie 1920, et donc d'une certaine manière, ces portraits se soviétisaient un petit peu, en tout cas correspondre un petit peu au graphisme soviétique, et voilà, qu'il y a un travail un petit peu sur son portrait, donc à la fois son portrait visuel et puis évidemment sur son portrait symbolique et sur les discours qui sont construits autour d'elle.
C'est ça. Alors, vous montrez bien aussi que très vite, il y a une récupération soviétique, enfin, mais aussi de la Commune, qui serait un peu le prémisse de la Révolution de 17. Et donc, même dans les publications, vous montrez qu'il y a un peu une esthétique réaliste soviétique, la géographie totale de cette figure, ce qui va évidemment beaucoup agacer les anarchistes qui vont riposter. Et ça, vous racontez aussi très bien comment la tradition anarchiste, dès le début, dès sa mort d'ailleurs, va disputer aux communistes la mémoire de Louise Michel et rappeler son engagement anarchiste qui est particulièrement clair, notamment à son retour de Nouvelle-Calédonie.
Oui, voilà, ce que les anarchistes vont dénoncer dès le départ, c'est le fait que vont se réclamer et vont se réapproprier Louise Michel tout un tas de forces politiques qui... C'est pas tant le fait que bon, ils se réclament de Louise Michel, c'est surtout le fait que ils vont se réclamer de Louise Michel, mais en omettant de dire que Louise Michel était anarchiste. Et c'est effectivement là-dessus que donc tout le registre mémoriel anarchiste de Louise Michel va se construire, bien évidemment aussi en référence à cette figure comme figure de l'anarchisme, mais aussi donc en opposition à toutes ce qui est considéré comme des récupérations de cette figure. Par rapport au Parti communiste, ça va être particulièrement net après la Seconde Guerre mondiale, puisque après la Seconde Guerre mondiale, donc le Parti communiste va faire le parallèle entre la résistance et la Commune de Paris. Voilà, les communards vont faire écho, enfin les résistants vont faire écho aux communards et vice versa. Et donc, dans ce processus, Louise Michel aussi, elle va être relue et être relue, disons, patriotiquement, qui va se développer à ce moment-là. Voilà, tout un discours sur une Louise Michel patriotique. Ça se symbolise notamment dans le cimetière de Levallois-Perret, puisque donc Louise Michel est enterrée au cimetière de Levallois-Perret. Et en fait, en 1945, il va être décidé de déplacer la tombe de Louise Michel. Donc, elle est enterrée à côté de, dans le tombeau de sa mère et à côté de Théophile et Marie Ferré. Et donc, décider de déplacer Louise Michel et de la déplacer au rond-point des victimes du devoir, donc au centre du cimetière et donc aux côtés des résistants, ce qui est finalement un premier pas vers une intégration de Louise Michel à un récit national ou à un récit collectif républicain, donc ce déplacement symbolique. Et les anarchistes vont s'opposer à ça, et donc lors des célébrations, des célébrations qui ont lieu au moment du déplacement de sa tombe, donc les anarchistes seront présents et seront présents pour contester ce déplacement et pour contester globalement les discours communistes qui font de Louise Michel une patriote.
Et on comprend bien dans votre livre que le combat mémoriel entre communistes et anarchistes est un peu inégal, parce que par ailleurs, les anarchistes n'ont pas du tout le culte des commémorations, n'ont pas du tout le culte comme ça des légendes, des icônes, et que finalement, et d'ailleurs pendant très longtemps, la dimension anarchiste de Louise Michel est de fait passée relativement au second plan, voire totalement occultée.
Oui, c'est effectivement, si on replace ça dans le rapport des anarchistes à la mémoire et si on replace ça dans une vision des rapports de force politique de la période, on voit bien que ce qui rend possible l'assimilation de Louise Michel au Parti communiste, c'est à la fois le fait que voilà que les anarchistes développent une critique de l'héroïsation, une critique des mémoires individuelles, individualisées, des héros de l'histoire, et aussi que, contrairement à la fin du 19e, début 20e siècle, le mouvement anarchiste perd un petit peu de sa force dans les années 20-30, et donc, cette perte de force du mouvement anarchiste accompagné du refus politique de ce que Libertad appelle le culte de la charogne, ce refus politique là de enfin ce, ce, ce rapport à la mémoire contribue effectivement à la possibilité pour le Parti communiste de se revendiquer de Louise Michel.
Et alors, vous montrez bien ensuite qu'il y a un tournant dans les années 70, notamment pour le centenaire de la Commune, avec l'institutionnalisation de l'histoire des femmes, du féminisme. Là, on redécouvre Louise Michel comme femme, alors que dans la mémoire communiste, elle était quand même largement asexuée. C'était vraiment l'héroïne, la Vierge rouge. Là, on redécouvre Louise Michel, donc dans l'histoire, comme s'ancrant dans une histoire féministe. Et vous montrez bien aussi que là, il y a une appropriation mémorielle particulière qui est le fait d'un féministe très différentialiste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, alors effectivement, ce qui se passe donc dans les années 70, c'est le développement du féminisme dit de la seconde vague, qui va faire référence surtout à la figure collective des pétroleuses, mais aussi à Louise Michel, va aussi commencer à se développer dans la sphère académique l'histoire des femmes, et là aussi, puisque la plupart des historiennes des femmes sont issues de l'histoire ouvrière et de l'histoire sociale, sont formées à l'histoire sociale, donc un intérêt certain pour les figures de femmes, disons, socialistes au sens large ou révolutionnaires, et donc pour Louise Michel. Il va y avoir effectivement une certaine prise en charge de la figure de Louise Michel par les féministes dites différentialistes. C'est par exemple donc la publication aux éditions des Femmes d'une biographie de Louise Michel écrite par Paul Lejeune, et puis c'est la construction finalement de tout un discours qui cherche à mettre en avant les qualités dites féminines de Louise Michel. En fait, du coup, ça prend forme surtout avec la biographie en fait d'Edith Thomas, biographie qu'elle publie donc. Qui est publié au moment du centenaire de la Commune, et donc Edith Thomas qui va faire un gros travail d'archives sur Louise Michel et de relecture de ses textes, etc., et qui va proposer une nouvelle interprétation de Louise Michel, détachée des cadres d'interprétation du Parti communiste, puisque Edith Thomas est aussi une démissionnaire du Parti communiste, donc elle place aussi sa biographie en rupture avec les mythologies communistes, et donc elle va développer un nouveau regard sur Louise Michel, d'une Louise Michel passionnée. Donc elle met en avant la passion de Louise Michel, elle voit finalement l'engagement l'engagement de Louise Michel dans les luttes comme le résultat de sa passion militante, sa passion amoureuse aussi, puisqu'elle met l'accent sur le fait que Louise Michel aurait été endeuillée par la mort de Théophile Ferré, qui serait le grand amour de sa vie. Donc il y a tout un discours aussi là-dessus. C'est la passion qui est le moteur de l'action de Louise Michel et le moteur de l'engagement de Louise Michel. Donc la mise en avant de cette idée-là de la passion, et puis de ses qualités morales, la bonté, l'abnégation, le dévouement. Des choses qui étaient déjà présentes du vivant de Louise Michel. Il y avait déjà la construction de ces discours et de ces images de Louise Michel comme sœur de charité laïque, par exemple. Ça apparaît déjà de son vivant. Et c'est à ce moment-là, dans les années 70, que ça va être un peu redécouvert, puisque le Parti communiste n'avait pas axé la mémoire là-dessus. Donc voilà, une mise en avant des qualités dites féminines de Louise Michel.
Et alors, c'est peut-être pour ça, c'est-à-dire cette distanciation aussi avec la mémoire communiste, le fait qu'on axe beaucoup sur sa psychologie, qui va permettre peut-être un peu de dépolitiser la figure de Louise Michel et permettre une nouvelle réappropriation qui va être le fait des Républicains, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes, puisque Louise Michel a été déportée par la Troisième République. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce tournant et ce moment un peu de réintégration de Louise Michel au panthéon républicain, même si elle n'y est pas entrée. Mais
disons, le moment clé de cette intégration de la figure de Louise Michel au récit républicain, c'est 1981, c'est l'élection de Mitterrand, c'est surtout la nomination d'Yvette Roudy comme ministre des droits des femmes, parce que c'est Yvette Roudy va jouer un rôle central là-dedans. Et c'est donc finalement le Parti socialiste qui, accédant au pouvoir politique, va faire entrer Louise Michel dans une mémoire institutionnelle et républicaine. Donc, par exemple, vont être publiés à l'occasion du 8 mars, donc par Yvette Roudy, des timbres, et il y aura notamment un timbre à l'effigie de Louise Michel. Des expositions vont être installées, Gare Saint-Lazare, avec toujours le portrait de Louise Michel. Et Yvette Roudy, voilà, elle va construire, disons, une version ou une interprétation de l'histoire des femmes, qui est, dit-elle, enfin, c'est la longue marche, c'est sa façon d'envisager l'histoire des femmes, une longue marche vers l'égalité, une longue marche vers l'émancipation, et une longue marche qui est balisée par quelques grandes figures de femmes, donc une histoire individualisée, hein, quelques grandes figures de femmes méritantes, exceptionnelles, qui se démarquent par leur action, leur exceptionnelle action. Et donc, là-dedans, on trouve Louise Michel. Et donc, effectivement, ça, c'est le moment de basculement de Louise Michel vers ce récit républicain. On voit bien ce basculement, je le montre un petit peu dans le livre, quand on regarde un petit peu l'histoire des noms de rue ou l'histoire des manuels scolaires. Bon, on voit bien qu'à partir de 80, ça commence dans les années 70, mais surtout donc avec l'arrivée du Parti socialiste au pouvoir, comment donc Louise Michel va intégrer ce panthéon républicain.
Et alors cette réappropriation va même très loin, puisqu'on voit même des figures de la droite, bon, qui a quand même pas beaucoup revendiqué l'héritage de Louise Michel, mais on va voir un Christian Poncelet au Sénat commémorer, je crois, poser une plaque au Luxembourg en mémoire des communards et de Louise Michel. Et même, est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode, alors que j'ai appris qu'il y avait même eu un prix Louise Michel dont le président d'honneur était autre que Jacques Chirac, et qui a même décerné un prix, je crois, à l'autocrate Paul Biya. Enfin voilà, comment on en est arrivé là? Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus?
Ouais, alors sur cette histoire du prix Louise Michel, c'est en fait donc a été créé au sein des socialistes par des femmes socialistes un club Louise Michel, notamment par Jeannette Brutel-Dubat, Club Louise Michel, qui avait pour vocation de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, et donc au sein du Parti socialiste, mais aussi au-delà. Et donc, c'est ce club Louise Michel qui s'est progressivement transformé en prix Louise Michel, qui effectivement a été décerné à différentes personnalités politiques, qui a aussi fait l'objet de critiques, bon, qui est un petit peu obscur. C'est un peu difficile d'avoir des informations à ce sujet et sur le fonctionnement de ce prix, mais donc oui, c'est effectivement, on voit, c'est un bon exemple de cette trajectoire finalement depuis le Parti socialiste ou en tout cas les milieux socialistes jusqu'à une célébration républicaine et puis une mise en avant républicaine de Louise Michel. Il y a aussi le cas d'une promotion de l'ENA qui a été appelée Louise Michel, et puis oui, vous faisiez référence à la droite aussi très récemment, là, cette année, un tweet d'Isabelle Balkany pour l'anniversaire de la mort de Louise Michel. Isabelle Balkany qui, donc, dans son tweet, rend hommage à Louise Michel, bon, d'une façon particulière, puisqu'elle voit en Louise Michel plutôt l'amoureuse transie de Victor Hugo et Théophile Ferré, c'est aussi comme ça des hommages ponctuels. Bon, ça s'explique par le Valois-Perret, mais c'est quand même la droite qui fait référence à Louise Michel. Ça traduit bien un petit peu cette forme de pacification d'une mémoire de Louise Michel, parce que évidemment, bien entendu, la mémoire de Louise Michel reste aussi en grande partie une mémoire des luttes pour un certain nombre de groupes et une mémoire conflictuelle et révolutionnaire et anarchiste.
Et alors, vous parliez effectivement de l'amour de Louise Michel pour Théophile Ferré. Ce qui est intéressant, c'est que dans les récentes années, et peut-être en passant d'ailleurs par les États-Unis qui ont plus souligné cet aspect, on a aussi redécouvert qu'une Louise Michel homosexuelle qui aurait eu des longues histoires avec des femmes importantes dans sa vie. Est-ce que c'est la dernière réappropriation mémorielle, c'est-à-dire le féminisme queer qui fait aujourd'hui de Louise Michel une icône ?
En tout cas, la question est posée et le point est souligné, qui est de, finalement, le fait d'avoir fait de Louise Michel la Vierge Rouge, donc d'avoir fait de Louise Michel une hétérosexuelle, d'avoir souligné ce qui serait un amour tragique pour Théophile Ferré ou c'est sa relation platonique avec Victor Hugo. Bon, finalement, les dynamiques historiques, mémorielles, ont fait de Louise Michel une hétérosexuelle, certes vierge, mais hétérosexuelle. Et donc, il y a effectivement un questionnement autour de cette façon de construire l'histoire. Donc, non seulement cette façon de construire l'histoire, une histoire qui met l'accent sur l'intimité de Louise Michel plutôt que sur ses engagements politiques. Bon, une volonté de repolitiser Louise Michel en disant finalement, est-ce que d'une part, son intimité est vraiment intéressante, et d'autre part, en me disant peut-être qu'elle n'était pas hétérosexuelle, c'est aussi une volonté de la repolitiser, donc critiquer cette histoire, et puis cette histoire qui met l'accent sur son intimité, et puis voilà, mettre en avant le fait que, dans la vie de Louise Michel, il y avait un certain nombre de femmes, et que, en tout cas, la question, si jamais il fallait se poser la question de son intimité, la question de son hétérosexualité n'est pas tranchée. Alors, du coup, ça donne naissance effectivement à tout un tas d'usages et de nouveaux usages. Alors, je ne sais pas si on peut dire que Louise Michel est devenue une icône queer, mais en tout cas, c'est ce type de regard pose la question des dynamiques de construction de l'histoire et met le doigt sur le fait que voilà, les dynamiques de construction de l'histoire et mettent les femmes, et lisent les femmes à travers leur intimité et lisent l'histoire à travers l'hétérosexualité.
Et aussi, vous l'évoquez dans le livre, ce qui fait écho au débat parfois un peu tragicomique qu'on a en France sur l'intersectionnalité. Je pense à une nouvelle tradition, de nouveaux ouvrages historiques qui rappellent aussi son combat en faveur des Kanaks et son engagement anti-impérialiste très fort. Ça, c'est aussi quelque chose qui est aujourd'hui de plus en plus étudié.
Oui, effectivement, et qui s'articule aussi à la question du travail pédagogique de Louise Michel, puisque effectivement, il ne faut pas l'oublier que Louise Michel, elle est en tout cas au départ une institutrice, que les questions pédagogiques sont très importantes pour elle, comme pour un certain nombre d'anarchistes qui réfléchissent aux pratiques pédagogiques. Et donc, du coup, il y a aussi cet accent qui est mis sur une volonté proposer une pédagogie, et féministe et antiraciste, en tout cas, de dévoiler un petit peu ce qu'il y avait chez Louise Michel dans cette direction. C'est effectivement des nouvelles pistes qui ont toujours été. Il y a toujours eu un certain nombre d'intérêts pour la position de Louise Michel en faveur des Kanaks, le fait qu'elle ait été une des seules communardes déportées en Nouvelle-Calédonie qui ait soutenu l'insurrection Kanak. Aussi ses liens d'ailleurs avec les Algériens. Et son soutien finalement aux luttes, y compris aux luttes anticoloniales.
Et alors, pour terminer, j'aurais envie de vous demander, après avoir fait tout ce travail, si on vous demandait, si les pouvoirs publics vous demandaient comment commémorer Louise Michel en 2021, laquelle est la vraie ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous ?
Mon objectif, c'était pas forcément de dire qu'il y avait certaines lectures ou certaines appropriations qui étaient vraies ou justes et d'autres qui seraient fausses, finalement. Chacune met l'accent sur différents aspects de Louise Michel. Après, est-ce qu'il faut être bornée sur les commémorations, et puis surtout, est-ce qu'il faut lire l'histoire à travers les individus plutôt qu'à travers les collectifs et les luttes, j'en suis pas sûre. Mais est-ce que finalement la dynamique républicaine de la mémoire est pas fondamentalement articulée à une lecture individuelle de l'histoire, en tout cas de la République libérale?
Merci beaucoup Sidonie Vérag. Encore une fois, je recommande la lecture de votre ouvrage qui paraît ces jours-ci aux éditions du Croquant. Si vous voulez retrouver l'ensemble des émissions de notre collection Écrire l'Histoire, rendez-vous sur Mediapart. À bientôt.